Amen. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont là pour la première fois. Sentez-vous à l'aise parmi nous. Bon, vous avez vu, est-ce que c'est que de vivre aux côtés d'une Ukrainienne? C'est carré, hein? Bravo, ma chérie. Ça tombe bien parce que c'est aussi le sujet du message. C'est un message que j'avais donné il y a quelques temps et que j'ai repris ce matin. Et je pense qu'on a besoin de se réencourager avant la rentrée, de refocaliser sur la communauté, l'Église. Le titre, c'est Servir les frères et sœurs ou servir l'Église. Je vais commencer par une citation de Dietrich Bonhoeffer. Je crois qu'elle est écrite. Dans un monde où le succès est la mesure et la justification de toute chose, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on mesure les choses en fonction du succès dans le monde. La figure de celui qui a été condamné et crucifié reste étrangère. Et bien sûr, il est parlé de Jésus ici. Jésus reste étranger à cela, à la réussite, au succès. Et au mieux, ça fait l'objet de pitié. D'accord? La pensée du monde qui vise le succès, la pensée de Dieu qui montre Jésus crucifié. La figure du crucifié invalide toute pensée qui prend le succès pour sa norme. C'est un message joyeux, hein, mais on comprend. Voilà, je veux juste laisser ça, descendre ça dans nos cœurs. Le fait que Jésus soit mort et que la finalité de sa mission, c'était la mort à la croix, ça invalide de prendre le succès, la réussite, comme une norme indispensable pour notre vie. L'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Ne pas dominer, mais aider et servir. Elle doit servir aux hommes, quel que soit leur appel. Elle doit dire, pardon, aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie vivre pour Christ, exister pour les autres. Et je crois vraiment que cette thématique de se sacrifier pour l'autre, donner sa vie pour celui ou celle qui est à côté de moi, ça a beaucoup de mal à résonner, à avoir un écho aujourd'hui. Comment réagissez-vous si je dis notre société est toujours plus tournée vers soi? Vers notre propre bien-être, vers notre accomplissement personnel. Qu'est-ce que vous pensez? C'est l'été, on prend un peu plus le temps. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou vous vous sentez complètement étranger à ça? C'est pas une interrogation, hein? Vous avez le droit de, on a le droit de répondre. Notre société toujours nous pousse toujours plus à nous tourner vers nous-mêmes, vers notre propre bien-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Est-ce qu'on en a vraiment conscience? Ça, c'est une autre question. Parfois oui, je dirais. Parfois pas forcément. Et j'ai une autre question pour nous ce matin, c'est à quel point pensons-nous que ça influence notre façon de vivre l'Église? À quel point pensons-nous que le succès, que la recherche d'être bien, d'être mieux, influence notre vie communautaire? Moi, je pense beaucoup. Je pense beaucoup. Parfois, ça nous ferait du bien de nous retrouver au Ghana. C'est là où tu vas? Dans un pays où le confort n'est pas la norme. Je crois qu'on prendrait conscience de ce que fait cette recherche absolue du bien-être dans notre vie, et particulièrement dans la vie de l'Église. Et si on regarde au fond de son cœur, je crois que chacun de nous peut retrouver cette quête, parfois première, de l'accomplissement personnel qui va surpasser le don de soi et le service pour l'autre. Ce que je veux nous faire réaliser ce matin, c'est à quel point la pensée de Dieu, elle est à l'envers. Plutôt la pensée du monde est à l'envers de la pensée de Dieu. Mon confort, le confort de ma famille ou mon ministère peut devenir si important que j'oublie celle ou celui que Dieu a placé à côté de moi. J'oublie de servir ma communauté et où je ne prends simplement pas le temps. Et ça, c'est un vrai fléau aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. J'oublie que cet appel vital de me donner à Jésus et à son Église. Ce n'est pas des grandes révolutions ce matin, hein, mais ô combien c'est important. Quand nous avons dit oui au Seigneur, je te donne ma vie, ben en fait on lui a donné. Du coup, on se donne à Jésus, bien sûr, à Dieu en premier. Mais avec, on se donne à la communauté. Et j'entends trop dire aujourd'hui en France, non, mais ce qui est important, c'est d'être avec le Seigneur. C'est pas grave si je vais pas à l'église. Excusez-moi, c'est juste un non-sens. Soit on n'a pas la même Bible, soit je ne comprends pas cette phrase. Parce que se donner à Christ, c'est faire partie de son corps. Et c'est se donner à la communauté. Ça va toujours ensemble. On ne peut pas le séparer. On vit dans une société qui veut tout séparer. Comme ça, on peut choisir. Vous comprenez ? Moi, je prends le salut, j'appartiens à Christ. Par contre, le don de soi, le service, le sacrifice, ça, je le laisse pour les autres. Eh bien, la Bible ne nous y autorise pas. Elle ne nous y autorise pas à faire cela. 1 Jean 3, verset 16, nous avons connu l'amour. Amen. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et vous avez vu, le verset, il ne s'arrête pas. Il y a un point virgule. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Comprenez ? Salut et vie communautaire. C'est dans un verset. C'est ce que je voudrais essayer de réconcilier dans les cœurs de certains ce matin. C'est ensemble. D'accord ? C'est pas d'un côté, je peux dire « Oui, moi je suis chrétien. » Vous savez, cette formulation. Et puis, par contre, je suis pas pratiquant. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. D'accord ? Si tu es chrétien, Ben, tu vis dans une communauté et tu pratiques ton christianisme. D'accord ? Dieu appelle ses enfants à donner leur vie les uns pour les autres. Il nous appelle à aimer de telle sorte que chacun recherche le bien, le bonheur de l'autre avant le sien. Ça aussi, ça fait mal à la pensée d'aujourd'hui. Et c'est à ça que nous sommes appelés, mes frères, mes sœurs, à aimer celui qui est à côté de moi et à désirer que lui ou elle soit mieux que moi. Imaginez l'impact que cela a dans un mariage. Est-ce que je peux me permettre d'applaudir Oui, tu me permets, Ethan ? Ethan et Rebecca, vous pouvez vous lever. Il y a eu une demande de mariage qui a été faite. Imaginez l'impact si Ethan arrive à aimer Rebecca au point de pas simplement lui dire c'est déjà une très bonne étape, mais agir tout le reste de sa vie pour son bien à elle. Et imaginez si Rebecca choisit de vivre le reste de sa vie, pas pour son bonheur personnel, mais pour son bien à lui. Ça, c'est l'image. Ça, c'est la volonté de Dieu pour les familles. Imaginez l'impact dans une famille. Imaginez cet impact-là dans une église. C'est pour ça que Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'ils sauront. Vous imaginez l'impact que ça développe. Alors ce matin, on va mettre en pratique. Je voudrais demander, y a-t-il des maris ce matin ? Il y en a deux, trois. Non, pas des maris IE, mais des maris IS. Mettez-vous à côté de vos épouses et elle n'est pas là, ben, tu lui diras après. Et si on est fiancé, on peut le faire aussi pour le futur. Et si on n'est pas mari ou femme, on peut aller voir, on peut se mettre à côté d'un frère ou d'une sœur. Parce qu'en fait, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de différence par rapport au don de soi. Donc, que personne ne se retrouve seul. Il y a Bernard qui est seul, donc il faut que quelqu'un aille auprès de Bernard. Mettons-nous par deux et on va simplement un peu se parler et prier ensemble. Oui, déplaçons-nous. Merci Robert. Personne n'est seul ? J'arrive, ma chérie. Rappelons à celui qui est à côté, à son épouse, à son époux, ou à son frère ou à sa sœur, que nous sommes engagés l'un envers l'autre. Les maris rappellent à leurs épouses qu'ils sont engagés dans le mariage, premièrement pour prendre soin d'elle et lui offrir sa vie. Les épouses, de même, elles se sont engagées dans le mariage, premièrement pour prendre soin du mari et leur offrir sa vie. Et de la même manière, en tant que frères et sœurs, Christ nous a unis ensemble pour que nous considérions cela sérieusement et que nous nous engagions l'un envers l'autre dans le don de soi, dans le fait d'offrir notre vie pour l'autre. On va prendre 2-3 minutes, on va se parler et on va prier ensemble. L'autre reste un cadeau pour ma vie que Dieu m'a fait. L'engagement que j'ai pris demeure et doit aller au-delà du moment de friction. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Ça veut dire quoi, ça, quand on dit ce mot ? Tout simplement, c'est qu'il ne dépend pas de nous et qu'il se manifeste concrètement dans son expression la plus forte. Et c'est quoi l'expression la plus forte de l'amour de Dieu ? C'est qu'il a donné son Fils et Jésus a donné sa propre vie en sacrifice. C'est ça notre modèle. Vous vous rappelez la citation de Dietrich Bonhoeffer ? Le message de la croix. Cet amour nous a été donné par Dieu et nous pouvons le partager entre nous. Alors que le monde nous pousse à rechercher autre chose, la richesse, la gloire, le confort, la Bible, elle, nous pousse dans une autre direction. On peut lire 1 Thessaloniciens, verset 2. Ah, il n'y a plus personne là-haut. Je vais le lire. Verset 6 à 8. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Waouh ! Ces trois hommes qui parlent là, c'est Paul, Sylvain et Timothée. Est-ce qu'on se rend compte de l'amour qu'ils ont laissé grandir dans leur cœur pour la communauté ? Est-ce qu'on vraiment se rend compte ? Parfois, on lit des textes, vous savez, en mode « ça y est, j'ai lu ». Mais quand on s'arrête sur ce qui est dit, waouh, waouh ! Dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu vous donner nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers. Waouh ! Je pense que ces trois hommes ont vraiment été bouleversés par l'amour de Dieu. Et nous, on en est où de notre attachement ? Frères et sœurs, quels sont les sentiments qui nous animent les uns envers les autres ? Est-ce que, quand je ne suis pas là le dimanche matin, je pense la plupart du temps à moi ? À ce que je dois faire dans ma vie, pour ma famille ? Où est-ce que j'ai des moments nombreux où j'ouvre ma tête, j'ouvre ma maison à un frère, à une sœur, à l'autre? Est-ce que parfois le moindre petit obstacle, la moindre petite contrariété est là pour arrêter mon élan d'amour envers l'autre ? Je le confesse, dans le couple, parfois, oui, sur des broutilles, sur des bêtises. Parfois, la contrariété va arrêter mon élan d'amour. Mais merci Seigneur, parce qu'il a donné le pardon. Et je vais trouver mon épouse et je vais lui demander pardon d'avoir laissé ça venir arrêter cet élan d'amour. Et c'est pareil dans nos relations les uns avec les autres. Que puis-je sacrifier dans le rythme effréné de ma vie pour passer plus de temps avec mon frère ou avec ma sœur afin de mieux prendre soin de lui ou d'elle? Que puis-je enlever de mon emploi du temps, toujours surchargé, pour m'occuper de l'accueil, merci beaucoup à l'équipe d'accueil qui fait ça avec un cœur extraordinaire, des enfants, Irina a fait un appel, du jardin, de l'entretien des locaux, tout ce qui va contribuer à ce que le bien de la communauté soit important pour moi. Et je veux nous encourager avant la reprise de nos agendas fous, aujourd'hui je crois qu'on peut les appeler comme ça, à replacer à nouveau la communauté parmi les priorités de la vie quotidienne. La communauté, c'est quotidien. Vous comprenez ce mot ou qui ne connaît pas le mot quotidien? Ça veut dire tous les jours. La communauté, c'est pas que le dimanche. D'accord? Même si on va en parler dans pas longtemps, c'est important le dimanche aussi. Mais c'est pas que le dimanche. Et on a besoin de faire de la place dans nos agendas. Le monde nous entraîne sans cesse dans un rythme où la vie communautaire passe au second plan, et voire au troisième plan. Et parfois, elle peut même disparaître. En France, aujourd'hui, trop de chrétiens ont pris l'habitude de faire autre chose que de vivre avec leur communauté locale de manière régulière. Ça veut dire quoi, régulière? Ça veut dire répéter, ça veut dire plusieurs fois par semaine. C'est ça, régulier. C'est pas une fois par an. Ça, c'est régulier, mais c'est pas le régulier de la Bible. D'accord? Relisez le début des Actes et vous allez voir la régularité des rencontres. Elles étaient quotidiennes. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de chrétiens évangéliques qui fréquentent l'Église de manière régulière, au sens biblique du terme, en France? Moins de 30%. Moins de 30%. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a 70% qui ne le font pas. Non, mais c'est pour nous faire prendre conscience de là où on en est. Et au milieu de nous, c'est bon ? On est dans les clous ? Là-dessus, peut-être qu'on peut faire un peu plus d'efforts ensemble. Est-ce que vous savez que si tout le monde venait tous les dimanches, on devrait à chaque fois rajouter les bancs sur l'allée du fond là-bas? Bon, là, c'est l'été. Les gens sont en vacances. Donc je crois aussi que dans notre communauté, on se prend des aises, vous comprenez? On se dit, oh, c'est pas grave si j'y vais pas cette fois-ci. Ou Je remplis mon agenda. Et forcément, ben, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour m'investir, pour être au milieu de la communauté. Et parfois, les anciens et les diacres, on est inquiets de cela. Mais savez-vous pourquoi ? Quelle est notre première inquiétude ? Si on voit que les membres de la communauté ne fréquentent pas l'Église, quel est le premier risque qui va arriver inévitablement ? Alors la communauté, je pense qu'elle ne va pas disparaître parce que Dieu est fidèle, mais c'est surtout l'influence du monde, les amis. L'influence du monde. Pensez-vous qu'en écoutant un message une fois par semaine et des millions d'autres messages tout le reste de la semaine, vous allez être influencé par qui ? C'est une question rhétorique. Et bien sûr, je m'inclus là-dedans. Hein, je m'inclus là-dedans. Mais ce que je voudrais ce matin, c'est nous rendre vigilants à cela. D'accord ? Je ne suis pas en train de manier le bâton. Il faut que vous soyez là tous les dimanches, sinon là, là, là. Ce n'est pas ça mon but. C'est de nous faire prendre conscience que si la majeure partie de ma vie, je la passe en dehors de l'Église, à être influencé par tout ce que le monde me propose, est-ce que sérieusement je crois que je vais être le chrétien que Jésus veut que je sois ? Sérieusement ? Il y en a qui peuvent penser ça ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et parfois, nous avons des grosses luttes dans nos vies. Peut-être uniquement à cause de cela. Parce que nous vivons 90 ou 95% de notre temps dans le monde. Et nous espérons très fortement, excusez-moi, ce n'est pas pour me moquer, mais c'est parfois la sincérité de notre cœur en se disant « Non, mais je vais à l'église une fois par mois et ça va suffire pour transformer mes pensées, pour changer ma vie de couple, pour je sais pas quoi, pour améliorer ma compréhension de la Bible, de Dieu, etc. » Parfois, on est comme ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous appelle à vivre. D'accord ? Ça n'est pas le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est l'inverse. C'est vis la communauté, vraiment. Investis-toi. Laisse-toi baigner, laisse-toi imprégner, parce que le Seigneur veut, fait. D'accord ? Et il t'enverra dans le monde avec une mission. Ton travail, tes collègues de boulot, etc. Mais la majeure partie du temps devrait être consacrée à la vie de l'Église. Bon, vous allez dire, c'est mon dada en ce moment, mais je pense sérieusement que le monde influence l'Église d'une manière impressionnante en ce moment. J'allais dire, il y a quelques années en arrière, on avait encore quelques valeurs qui subsistaient dans la société. On avait le judéo-christianisme qui infusait très fortement dans beaucoup de sphères. Aujourd'hui, ben, il faut le chercher. Il faut le chercher. Et si ce n'est pas la Bible qui nous influence, ne pensons pas, parce que le monde dit ça, qu'en fait, il nous place dans un lieu neutre. Vous savez, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que nous sommes placés dans un lieu neutre où on va pouvoir réfléchir. Mais ça, c'est un gros mensonge. On est constamment influencé. Vous mangez un McDo, vous êtes influencé. Parce que vous mangez et parce que vous voyez. Vous regardez un film, vous êtes influencé dans vos émotions, dans vos peurs, dans plein de choses, dans votre conception même de la vie. D'accord ? Ça va ? Bon, je veux pas être le père Fouettard ce matin. Je veux juste nous faire prendre conscience ensemble. Et vous aurez bien sûr le droit de venir me trouver et de me dire hey « Hé Farid, attention, toi aussi, tu dois passer beaucoup de temps dans la communauté, dans l'écriture, parce que nous voulons être influencés par ce que la Bible nous enseigne et par Jésus-Christ lui-même. » J'avais mis un autre passage de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11. Paul a passé sa vie pour la communauté. Et j'avais pris ce passage juste pour montrer les sacrifices qu'il n'a pas hésité à faire. Sous 2 Corinthiens 11, 24 à 28, donc Paul était souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et puis arrive ce verset 28. Et sans parler d'autre chose, parce qu'on comprend bien que la liste n'est pas exhaustive, je suis assiégé. Waouh ! Chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Si ça, c'est pas un exemple de don de soi, il a subi tellement de choses, il aurait pu être complètement découragé. Et pourtant, il trouve la force de ne pas se centrer sur lui, mais d'avoir le souci des églises qu'il a soit mis en place, soit visité. Servir l'Église et développer un caractère comme Jésus, c'est être prêt à donner plus qu'à recevoir. C'est être prêt à perdre du temps, de l'argent, des libertés, des loisirs pour servir mon Église. C'est être prêt à peiner dans le travail plutôt que de réclamer plus de confort. En d'autres termes, c'est être prêt à revêtir, endurer une certaine forme de frustration et de souffrance. Même si je crois au ministère de guérison et de consolation, confié par Jésus à l'Église, je ne crois pas à une vision du christianisme qui ôte toute souffrance, tout sacrifice, toute douleur, et donc qui ôterait le fait de pouvoir se sacrifier l'un les uns pour les autres. Contrairement au monde qui nous propose des super-héros, je ne connais pas les derniers, je ne suis pas à jour, je suis désolé. Moi, je suis resté... Ah si, il y a Superman qui est repassé au cinéma. Wonder Woman, Iron Man, etc. Qui vivent en général comme des pachas, dans des beaux quartiers de New York ou autres grandes villes, dans des palais et qui défoncent tout pour montrer leur force. Notre héros à nous, il s'appelle Jésus. Il a vécu humblement, sans parfois avoir où reposer sa tête. Mais lui, il nous sauve en donnant sa vie, en mourant sur une croix. Et il faut l'avouer, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Mais nous nous identifions à la personne que nous vénérons, à notre héros. Et la chair en nous, bien sûr, elle veut un super-héros qui vit dans un palace et qui défonce tout. Quelqu'un qui réussit financièrement, qui a un corps de rêve, quelqu'un qui est satisfait, pas frustré. Et chacun de nous désire cela. Mais rappelons-nous ce matin, notre héros, notre modèle, notre Dieu, s'est abaissé, s'est humilié, s'est offert en sacrifice. J'arrive à la fin. Philippiens 2. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, donc il était ce super-héros, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a laissé le ciel. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Les amis, nous servons un Dieu qui offre sa vie pour nous. Notre humanité en tant que chrétien voudrait voir Jésus en tant que lion qui rugit aujourd'hui et qui détruit le mal. Et c'est ce qu'il est. Notre humanité désire être de sang royal, puissant, fortuné, renommé, etc. Mais le lion, il est venu sur la terre comme un agneau. Un agneau qui a été immolé. Et c'est lui, c'est pas le lion, c'est l'agneau qui ouvre le livre de vie, qui rachète l'humanité par son sang, en donnant sa vie pour ses amis, nous dit Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est appelé 27 fois l'agneau et une seule fois le lion. Je n'essaie pas ce matin de réduire la seigneurie de Jésus. Il est le roi des rois, il est assis sur le trône à la droite de Dieu. Il a tout pouvoir qui lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que cette seigneurie, cette puissance de Jésus se manifeste non au travers de la richesse, de la domination, mais non au travers, pardon, de la poursuite d'un confort toujours plus grand, mais la seigneurie de Jésus se manifeste au travers du renoncement, du dépouillement, du sacrifice, du don de soi. On finit d'enfoncer le clou, Matthieu 20, 26 à 28. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. C'est fini, rassurez-vous. J'aimerais qu'ensemble nous portions vraiment cette valeur du don de soi très haut dans notre cœur. Si vous êtes d'accord. Que nous regardions à cela, non comme une tristesse. C'est pas triste de sacrifier des choses dans nos vies, mais comme un sujet de joie, et que nous nous encouragions à persévérer dedans, car c'est un trésor de grande valeur dans le royaume de notre Père. C'est vraiment un trésor de grande valeur. Et vous savez, quand on ira rejoindre le Seigneur, il va juger nos vies. Il va juger nos vies. Et qu'est-ce qui va être gardé ? Nos sacrifices, le don de soi. Je pense que ça va apparaître. Ça va apparaître. Et ça concerne tout le monde, du plus petit au plus grand. Soit je peux vivre ma vie en disant ce qui est important, c'est moi, et j'utilise les autres pour moi. Soit je suis percuté par le message de Jésus et je comprends que moi, je vais le laisser un peu de côté et je vais donner, me donner aux autres. En tout cas, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et si nous le faisons, si nous développons cet esprit de sacrifice, ben Dieu nous fait quand même une promesse pour finir. Matthieu 10. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté. » Vous entendez le sacrifice là ?« Nous avons tout quitté. » Je pense que Pierre là, il en avait gros sur le cœur. « Et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. » Il y a une petite parenthèse là. « Avec des persécutions, pour pas qu'on oublie que le sacrifice est important. Il est en haut, il n'est pas en bas dans notre liste. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront des premiers. » Amen. Le sacrifice, le don de soi est récompensé par Dieu lui-même. Du coup, nous avons soif de voir une communauté qui cherche à s'engager toujours plus, qui se met au service les uns des autres, qui prend soin les uns des autres. Jean 3, 16. Car nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen.
Merci Farid.